Ceci.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint.
Bonjour à toutes et à tous. Ça commence comme un fait divers, la découverte d'une famille française totalement recluse dans sa maison depuis des années. Ça continue comme une fable de La Fontaine, celle où un loup doit montrer patte blanche pour tromper sa proie et la dévorer. Et ça se transforme en une radiographie glaçante de notre époque, de l'Occident, de nos sociétés malades, indifférentes au monde, aveuglées par les apparences et les réseaux sociaux, pétrifiées par les attaques terroristes, et pour qui l'autre, l'étranger, est devenu un ennemi. Bonjour Kinga Wierzykowska.
Bonjour Catherine.
J'espère que j'ai bien prononcé votre nom, puisqu'il y a aussi une prononciation polonaise, je crois que je vous laisse...
Wierzykowska.
Voilà, je crois que je vais m'en tenir à la mienne. Vous êtes donc l'auteur de ce roman intitulé « Patte blanche » qui paraît aux éditions du Seuil, qui, comme je viens de l'annoncer, est une fiction autour du thème du repli, de l'enfermement et qui fait écho aussi au confinement qui nous a été imposé ces deux dernières années. Sauf que ce livre est né bien avant la pandémie, je crois, et que votre envie de l'écrire précède ou anticipe ce mouvement de l'isolement au monde que nous avons vécu. Quel a donc été le déclic ? Est-ce que c'est en effet un article de presse, comme vous l'écrivez dans les premières lignes ?
Oui, alors c'est en tout cas le déclic, c'est que je crois qu'il y a un fait divers qui a répondu à tout ce qui... m'inquiétait, suscitait chez moi des interrogations, me fascinait aussi. Et ce fait divers, c'est celui des reclus de Montflanquin. C'est une famille bordelaise, de notables bordelais, de la bourgeoisie bordelaise, qui s'est enfermée dans sa maison près de Bordeaux, dans son château même près de Bordeaux, et qui y est restée pendant une douzaine d'années. Donc on ne savait absolument rien, on ne savait pas pourquoi ils y étaient. Ils étaient, je crois, dans mon souvenir, une dizaine, de la grand-mère aux petits-enfants. Et ils refusaient de sortir et il y avait une sorte de... Alors à la fois, il y avait eu des articles et puis des reportages qui m'avaient marqué où on voyait cette maison, ce château, et ces gens à l'intérieur volaient fermés. Et évidemment, c'est à la fois tout à coup une image, un récit qui est une proposition romanesque, puisqu'en fait, on a à la fois le récit, le fait, et on ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Donc ça a immédiatement, évidemment, ça m'a invité à une forme de fantasme. Et puis, c'est vrai, pour moi, une famille enfermée dans une maison, probablement, on se dit de toute façon que c'est par peur, eh bien, ça correspond très exactement à tout ce qui, moi, m'angoisse. C'est-à-dire la macération familiale. Voilà, il y a quelque chose, je crois, de la cellule familiale dans son espace domestique qui me fait un peu peur.
D'ailleurs, j'aime beaucoup cette expression « cellule familiale » parce qu'elle n'a jamais été autant appropriée avec ce mot « cellule » qui renvoie évidemment à la prison. Vous ne dites pas le noyau familial, mais vous dites bien la cellule familiale. Et déjà, ça ouvre tout le champ des perspectives. Alors, nous voici donc avec cette famille qui, pour le coup, ici, dans le roman, est une famille imaginaire. Vous n'avez pas repris du tout le fait divers tel qu'il était. Mais à partir de là, vous avez développé votre propre famille et ses névroses. Donc, nous sommes en 2014. Et pendant deux ans, nous suivons les aventures, puis les mésaventures des Simard Dutheil, qui se présente comme une famille au début presque normale, c'est ce qu'on peut dire ?
Ou alors aussi pathologique que les autres.
C'est ça.
Oui, enfin c'est une famille en tout cas qui, ça commence, la première scène véritablement familiale est un anniversaire. Les enfants et les petits-enfants viennent fêter les 70 ans d'Isabella et ça pourrait... Il y a une expression en Pologne qui dit « une famille c'est beau sur une photo ». Voilà, donc c'est un peu de cet ordre-là, c'est-à-dire que tout à l'heure, vous parliez, pardon, je rebondis sur une chose que vous disiez tout à l'heure au sujet de la cellule. Dans cellule, on entend prison, mais pour moi, on entend aussi cellules folles, quoi, qui peuvent cette idée de contagion, où en fait, la famille est le lieu même dans lequel les choses peuvent, les angoisses, on le sait, se transmettre de génération en génération, de frère à sœur, etc., etc. C'est vraiment un lieu extrêmement propice à une forme comme ça de contagion, de la peur, des névroses. névrose, etc., etc. Donc oui, une famille bourgeoise ordinaire avec ses peurs.
Alors on va les présenter en quelques mots, si vous voulez bien, Kinga Wierzykowska. Il y a donc la mère Isabella qui fête ses 70 ans ici. Le père est décédé, mais on va en reparler parce qu'il a un rôle important. Et puis il y a les trois enfants adultes, Clotilde, Paul et Samuel, qui eux aussi ont une vie plutôt privilégiée, on peut dire.
Ce sont des gens qui font partie effectivement d'une classe sociale privilégiée, je dirais, avec les signes qui vont avec, la résidence secondaire. Ce sont des Parisiens, les enfants habitent à Paris. On apprend un peu au fur et à mesure du roman quels sont les parcours des uns et des autres. La fille Clotilde, elle a vécu une vie, après avoir voulu être comédienne, elle a vécu une vie d'expatriée. Paul, lui, alors Paul, c'est presque l'un des premiers personnages que j'ai commencé à construire. Paul, je l'ai imaginé comme quelqu'un qui, dans les années 80, courait derrière la gloire, les années 80-90, et qui était un peu comme, pour prendre une autre image, un surfeur qui réussirait jamais à prendre exactement la bonne vague qui arrive juste après. C'est-à-dire, il a failli être connu, il l'est un peu, et ça marche jamais exactement. Donc, il court derrière le temps, il court derrière ce qu'il estime finalement lui être un peu dû, parce que je pense que c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est aussi des gens privilégiés et qui pensent qu'il y a un certain nombre de choses qui leur sont peut-être dues, tout simplement parce qu'ils ont grandi dans cette image d'eux-mêmes. Et puis il y a Samuel qui est le fils, alors qui lui, dans la place de la fratrie, hein, Paul c'est l'aîné, Samuel le cadet, et puis Clotilde c'est la plus jeune. Et donc Samuel, c'est le personnage qui en apparence paraît le plus lisse, hein, il a réussi. Il est devenu l'un des chirurgiens plasticiens les plus estimés. Il a créé sa clinique. Et donc, lui semble être du côté de la réussite. C'est celui des enfants que la mère vénère, que le père adorait. C'est l'héritier, d'une certaine manière. Et en même temps, il a cette place un peu au milieu de la famille, où finalement, il n'est que la place qu'on lui donne.
Alors voilà donc le théâtre familial posé, et avec déjà, me semble-t-il, un premier thème très important, celui des apparences. Évidemment avec la chirurgie esthétique et ce personnage Samuel qui passe son temps à rendre plus belle peut-être les personnes qui l'opèrent. Et puis il y a aussi l'importance de tout l'univers numérique dans votre roman. Les réseaux sociaux, les sites personnels où on poste des photos, des vidéos, où on guette fébrilement le moindre like, le moindre j'aime en français. On publie tout de sa vie personnelle, professionnelle, privée. Un commentaire avec vous, Kinga, je vais y arriver, Wierzykowska. Pour vous ici, c'est une façon de dire que c'est aussi peut-être le premier élément qui fait basculer la famille. Trop d'informations, cette infobésité, cette addiction à son image, à ce qu'on renvoie ou pas. C'est déjà ce qui fait basculer la famille.
Alors, je pense que c'est l'un des facteurs. Mais après, je crois que c'est l'un des outils qui les fait basculer. En réalité, c'est pas la raison. C'est-à-dire que les raisons ne sont jamais la raison même. Hein. C'est à la fois l'utilisation et puis on vient y chercher ou on vient se remplir de quelque chose qu'en réalité on ne trouve pas complètement et qui nous rend en permanence effectivement vorace et donc peut-être parfois féroce et en tout cas dans un état d'inquiétude permanent. J'ai voulu rendre compte de cette inquiétude permanente dans laquelle cette excitation et cette inquiétude, je crois qu'en plus il y a un peu ça dans notre utilisation des réseaux, c'est que je crois qu'on est dans un état de fébrilité permanente, dans un état d'inquiétude permanente. Parfois cette inquiétude, alors par moment on retrouve ça dans le roman, elle rejoint même une forme d'excitation sexuelle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en permanence excité en nous et qui n'est jamais rassasié. C'est pas ça qui, au départ, va faire que les Simard Dutheil vont s'enfermer. Ce qui va faire qu'ils vont s'enfermer, il y a vraiment différentes raisons, qui sont internes à la famille et qui sont universelles de ce point de vue-là. C'est peut-être des gens qui se seraient enfermés à une autre époque, peut-être. Mais en tout cas, là, d'une certaine manière, le lit était fait pour, le lit de cette inquiétude est là, mais on y est tous.
Et c'est en effet bien de l'extérieur et du numérique qu'arrive donc un message qui, pour toute la famille, va devenir une menace où il y aurait un demi-frère que leur père aurait eu à Damas, en Syrie, où il allait régulièrement pour son travail. Et là, c'est le choc. Ce garçon, Feras, écrit aux membres de la famille en disant « Je ne peux plus rester en Syrie, évidemment à cause de la guerre. Vous êtes ma famille. Je viens vous rejoindre. » Et là, ils sont terrorisés. Mais de quoi est-ce qu'ils ont peur exactement, selon vous ? D'être spoliés financièrement ou d'être apparentés à un éventuel terroriste islamiste ?
En fait, d'abord au tout début, quand ce message survient, alors il y a comme deux temps, hein, puisqu'il y a au départ Paul qui trouve
une photo
de son père avec un bébé dans les bras, et penché sur cet enfant avec une tendresse, et je crois que ça c'est important, qu'il ne lui a jamais connu. Et évidemment, ça dit déjà ça. C'est-à-dire que cette photo, qui est accompagnée d'un commentaire, mais un commentaire qui ne dit pas non plus que c'est l'enfant de Claude, hein, le père de famille s'appelle Claude, cette photo le bouleverse profondément. Parce que cet enfant, sur lequel il voit le regard paternel d'amour, regard dont on comprend qu'il ne l'a pas connu comme il l'aurait souhaité, va déjà creuser en lui encore plus profondément la faille qui était déjà là.
Oui, il faut dire qu'il a été rejeté par la famille à partir du moment où il a dit qu'il était homosexuel, et il est parti, et pendant 10 ans, il n'a plus aucun contact avec sa famille, qui ne s'est pas préoccupé plus que ça, d'ailleurs, de son sort.
Qui ne l'a pas cherché plus que ça, ouais. Effectivement. Hein, ça, c'est un leitmotiv qui revient dans la bouche de Paul, c'est qu'on ne l'a jamais cherché. Et on comprend également qu'effectivement, il est très... il y a une forme de rivalité entre son frère Samuel et lui. Donc, pour lui, voir sur cette photo un enfant qui aurait pu être plus aimé que lui, alors que déjà il n'était pas suffisamment aimé, il y a déjà une menace. Il y a déjà une menace. Et ensuite, effectivement, va arriver, quelques temps plus tard, un mail. Parce que lui, quand il en parle à ses frères et sœurs, au moment de la photo, en fait, ça fait un peu un effet de pétard mouillé. Tout le monde s'en fiche. Mais quand arrive le mail, alors les uns et les autres commencent à prendre conscience du fait qu'effectivement, d'abord, je pense qu'il y a une menace, tout comme la menace première ne vient pas du fait que Feras, qui leur écrit, habite en Syrie, etc., etc. Ça, c'est peut-être dans un second temps. Dans un premier temps, je pense que dans toute famille, quand un demi-frère, ou en tout cas dans beaucoup de familles, quand un demi-frère surgit quelque part, alors qu'on ne s'y attendait pas, qu'on pensait qu'il n'y avait pas de demi-frère, qu'on idéalisait le couple parental, ben, il n'est pas forcément le bienvenu. Donc déjà, il y a ce frère qui surgit n'est une bonne nouvelle pour personne. Et puis après, effectivement, dans une famille bourgeoise, il y a une question très concrète,
de l'héritage.
Financière, question qui est déjà au cœur des relations entre les trois frères et sœurs.
Et en même temps, ce jeune homme, Feras, donc, qui prétend vouloir venir en France à cause de la guerre en Syrie, évidemment, ça fait écho à ce vaste mouvement migratoire que nous connaissons depuis plusieurs années dans le monde, où des populations entières doivent quitter leurs terres pour des raisons politiques, économiques, écologiques. Et un sujet d'ailleurs qui, cette année, a été encore au cœur de la campagne présidentielle, avec un Éric Zemmour que vous citez ici au détour d'une scène. Et puis, surtout, Kinga Wierzykowska, ici, vous développez deux points de vue. D'un côté, celui de ceux qui disent que la politique migratoire en France est une catastrophe, sous-entendu pas assez régulée, et de l'autre aussi que les Français sont égoïstes, indifférents au sort du monde, qu'on ne sait pas bien accueillir. Et j'aimerais savoir avec vous pourquoi c'est un thème qui arrive dans votre roman. Est-ce que c'est une question, la question migratoire, qui pour vous est une question essentielle au point qu'elle s'infiltre dans votre roman et dans la littérature?
Oui, c'est une question absolument essentielle. Effectivement, c'est une question absolument essentielle. Je pense tout d'abord parce que moi-même, je suis immigrée, et que quand on observe le mouvement vers lequel va le monde, qui est un mouvement de fermeture, je veux dire, regardez ne serait-ce que le pays d'où je viens, à quel point c'est un pays qui ferme. Alors, ça n'a pas été le cas récemment avec la guerre en Ukraine, mais c'est un pays qui a progressivement, qui s'est radicalisé dans des positions xénophobes, et puis qu'on a retrouvé en France de manière très forte également. Donc oui, c'est un thème extrêmement important pour moi, qui me tient véritablement à cœur, et c'est pas pour rien que, effectivement, Zemmour apparaît à un moment donné très exactement, et j'en dirai pas plus, à la place place à laquelle j'avais envie de le mettre dans le livre. C'est aussi pour ça que j'ai choisi la fiction. C'est que c'est un endroit dans lequel on peut mettre... on peut choisir aussi de se dire, voilà, il y a des personnages qu'on va remettre à la place à laquelle on a envie de les voir, c'est-à-dire comme un passager un peu... j'ai pas envie de décrire la scène, parce que j'ai pas envie de la spoiler. Mais voilà, j'avais envie, effectivement, avec ce personnage-là, de le ramener du côté d'une farce très grinçante, mais du côté de la farce.
On va reparler de ces thèmes et les développer peut-être un peu plus en deuxième partie. Pour l'instant, je vous propose, Kinga Wierzykowska, de faire une pause musicale. Alors, il n'y a pas beaucoup de références dans votre roman, Patte Blanche, si ce n'est Les Champs-Élysées de Joe Dassin, ou encore une version par Jean-Michel Jarre de Vivaldi. Est-ce que vous avez envie, vous, plutôt de proposer aux auditrices et aux auditeurs de RFI une chanson que vous aimez, mais qui néanmoins illustre aussi ce roman?
Chopin.
Voilà, Chopin, ça s'impose. Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI, en compagnie aujourd'hui de Kinga Wierzykowska, qui publie son premier roman sous le titre « Patte blanche » aux éditions du Seuil, qui raconte le dysfonctionnement d'une famille, une mère, ses trois enfants et ses petits-enfants, qui, avec la répétition d'angoisse, de frustration, d'engloutissement sous les images et toutes ces peurs qui nous traversent, devient paranoïaque, se recentre sur elle, sur cette fameuse cellule familiale dont on a parlé en première partie, avec aussi cette peur de l'autre. Et pourtant, c'est vrai que c'est une famille plutôt cosmopolite. La mère est d'origine italienne. La fille, on l'a dit, Clotilde, a vécu dans le monde entier pendant des années pour accompagner son mari. Et il n'y a aucune raison, a priori, que ces personnes soient xénophobes. D'ailleurs, la nouvelle belle-fille est polonaise, Monica. Le mariage va se passer à Sopot, en Pologne. Un clin d'œil à vos propres origines?
Oui, c'est un clin d'œil à mes propres origines. Et je crois que par ailleurs, effectivement, le cosmopolitisme européen ne nous préserve pas de la peur de l'autre. Hein. Je pense que c'est un milieu cosmopolite, mais c'est un milieu cosmopolite blanc. Et effectivement, Patte Blanche, c'était aussi ça. C'est-à-dire que je pense que la peur de l'autre, dans cette famille-là, quand bien même elle serait cosmopolite, ça va être la peur de celui qui est plus loin, musulman. Voilà, effectivement. Donc, je crois que malheureusement, le cosmopolitisme ne protège pas de ces réflexes-là, de ces peurs-là, ou du fantasme aussi, de la construction, hein, puisque finalement, l'identité, d'après moi, c'est aussi une construction, c'est-à-dire que c'est du récit, tout ça. Donc, ça va être notre manière à nous de raconter, de proposer des fictions, de proposer des choses, du récit qui va nourrir ce que signifie l'identité.
Et cette peur de l'autre, l'autre qui est l'inconnu, qui est celui parfois qui ne parle pas la même langue que soi, est-ce que vous l'avez éprouvé, vous, Kinga, enfant ? Ou racontez-nous peut-être exactement comment est-ce que vous êtes arrivée en France ? Pourquoi est-ce que votre famille a dû quitter la Pologne ?
Alors, ma famille a dû quitter la Pologne. En fait, mon père était journaliste sportif en Pologne, donc il y avait une ou deux chaînes à l'époque, et il y avait le journal télévisé, et ensuite, et juste avant, il y avait le journal sportif que mon père présentait. Et au moment de l'état de siège, hein, le lendemain, donc il a été prononcé en pleine nuit hein, par Jaruzelski, mon père, le lendemain, lorsqu'il est arrivé à son bureau, on lui a demandé soit de revêtir l'uniforme militaire, soit de démissionner. Donc, il n'était pas, mon père n'était pas proche du Parti communiste. Hein. Il a décidé, évidemment, voilà, de quitter la télévision. Il a dû signer un papier comme quoi il ne serait plus jamais journaliste. Et pendant 6-7 mois, il a été chauffeur de taxi. Et ensuite, il a été, c'est l'équipe, hein, le journal L'Équipe en France, qui l'a fait venir, pour lequel il était correspondant permanent. Il parlait déjà français. Et on a suivi quelques mois plus tard. Et effectivement, on est arrivé dans un pays dont on parlait la langue, parce que mes parents se sont connus autour du français. Donc, je n'ai pas eu ce sentiment-là, cette difficulté-là, en plus, quand on arrive dans un pays, de ne pas connaître sa langue. J'avais 6 ans.
Et votre maman parlait français aussi ?
Oui.
Par quelles circonstances ?
Elle a étudié le français. Mes parents se sont connus à la fac de français en Pologne.
Donc, vous aviez déjà cette langue
dans
la famille ?
J'avais déjà ça, exactement. J'avais cette langue dans la famille. Et donc, je suis arrivée, je n'avais pas cette difficulté-là. Et d'ailleurs, très honnêtement, à 6 ans, je pense que ça a été plus compliqué pour ma grande sœur. Moi, la difficulté de l'immigration, je ne l'ai pas vraiment éprouvée. J'ai vu ce que ça pouvait signifier pour mes parents en termes de déménagement. On a commencé par Villetaneuse, puis on est parti à Créteil. Et puis, il y avait des endroits où c'était plus facile pour vivre que d'autres. Mais moi, en tant qu'enfant, tout m'allait, vraiment. C'est-à-dire que je n'ai pas ressenti la difficulté de l'immigration et des changements. En revanche, oui, je crois que ça donne, en tout cas, cette position-là. Elle m'a fait souvent regarder quand j'habitais à Villetaneuse, à Créteil. Moi, mes copains étaient, pour la plupart d'entre eux, aussi issus de familles immigrées. Donc, j'allais dans des maisons où on ne parlait pas forcément français. Enfin, voilà, j'étais vraiment baignée là-dedans. Et finalement, les familles plus traditionnelles, françaises, bourgeoises, je ne les connaissais pas forcément. Donc, je les regardais un peu de l'extérieur, quoi. J'essayais d'en comprendre les codes. Et puis, donc voilà, je crois que c'est ce regard. Et puis après, l'école a fait aussi a rempli sa fonction, je veux dire, voilà. Mais effectivement, il y avait ce regard extérieur-intérieur qui est crucial pour moi.
Donc la question de l'étranger ne vous est pas tout à fait étrangère ?
Non, elle ne m'est pas tout à fait étrangère.
Et quel est votre lien aujourd'hui avec la Pologne, avec la culture polonaise, avec la langue ? Est-ce que vous avez encore de la famille là-bas ? Est-ce que vous y allez régulièrement ?
Alors, j'ai ma grande sœur qui est retournée, voilà. Et puis, j'ai mes parents qui y sont régulièrement, voilà, ils sont entre l'un et l'autre. Et j'y suis retournée également pour y vivre pendant 4 mois. J'avais l'impression d'avoir laissé des points de suspension, qu'il y avait quelque chose à clore. Et finalement, j'y ai habité 4 mois. Ça n'a pas été une bonne expérience pour plein de raisons. D'abord, je pense que 4 mois, c'est trop court. C'était en hiver. Enfin, je veux dire, il y avait un tas de choses comme ça. C'était à Varsovie même. C'est pas la meilleure saison. Ça m'a paru... voilà, ça... évidemment, en fait, c'était très violent de ressentir que je n'étais... Enfin, que là-bas... J'ai envie de dire aussi, et en même temps, c'est pas vrai, puisqu'en France, je me sens tout à fait, je me sens pas forcément, enfin, je me sens toujours un peu un pied dedans, un pied dehors.
C'est vrai.
Je crois qu'il y a toujours un peu de ça, oui. Il me semble qu'il y a ce sentiment, effectivement, que décrit d'ailleurs très bien Julia Kristeva dans Étranger à soi-même. Je ne sais pas si c'est le cas que je cite, effectivement.
En exergue. Et qui, elle, est bulgare.
Et qui, elle, est bulgare. Oui, ce sentiment d'être en permanence, effectivement, à la fois un peu étranger à soi-même et étranger à l'autre. Il me semble que, en tout cas, je ne sais pas si c'est la caractéristique ou un élément que partagent tous les immigrés, mais que je ressens fortement et qui, je crois, est un peu là, plus ou moins fort chez les gens.
Sioran disait, on n'habite pas un pays, on habite une langue. lui qui était roumain et qui aurait pu écrire en roumain, mais qui avait choisi d'écrire en français. Vous, évidemment, naturellement, vous écrivez en français. D'ailleurs, vous êtes l'autrice déjà de livres pour la jeunesse. Oui. Et je me demandais si avec ce premier roman, vous aviez pu laisser libre guise à cette ironie mordante qui saisit très justement le ridicule, les ambiguïtés, les paradoxes de vos personnages.
Oui, alors je crois que ça a été très important pour moi d'écrire ces deux romans jeunesse. Peut-être que j'en écrirai d'autres parce que je ne me sentais pas au moment où j'ai écrit Mémoire qui était le premier. Je trouvais ça extrêmement présomptueux d'écrire un roman. J'étais tellement biberonnée, nourrie de littérature. Je mettais ça vraiment tellement sur un piédestal que j'avais l'impression pour être un peu qu'il fallait être Proust ou se taire, quoi. Or, je n'étais pas Proust, donc je me taisais et je me suis dit non pas que je trouvais ça plus facile la littérature jeunesse, mais que c'était aussi une sorte de place à la fiction. Donc voilà, ça m'a donné beaucoup de liberté, la liberté d'oublier tout ce que j'avais un peu appris d'universitaire et de me laisser aller au plaisir du récit et de l'histoire. Et puis, au bout d'un moment, je crois que pour les histoires que je voulais raconter, il y avait aussi quelque chose qui me manquait. J'avais envie d'aller plus loin, dans quelque chose de plus, effectivement, de plus équivoque aussi. Je crois que la fiction, c'est aussi un lieu, c'est ce que vous souleviez tout à l'heure, c'est aussi un lieu dans lequel on peut pleinement, parce qu'il y a plusieurs personnages qui ont des points de vue différents, des parcours différents, et où on peut laisser entièrement la place à l'ambivalence, à la contradiction, à quelque chose qui n'est pas complètement tranché dans le sens. Donc, ça m'intéressait aussi comme lieu de liberté. Et c'est vrai que là où la littérature jeunesse, alors elle permet de l'humour, effectivement, mais peut-être que le mien est un humour plus noir, plus grinçant, plus sombre aussi. Et donc, c'était aller faire un pas encore vers ça que d'aller vers un premier roman qui ne soit pas jeunesse.
Est-ce que c'est votre côté polonais aussi ?
Ah bah, il y a aussi en exergue de mon livre Gombrowicz, que j'ai énormément lu, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, et oui, qui a effectivement... c'est aussi, je vais encore prendre une expression polonaise, parce qu'effectivement, je pense que les expressions qu'on a entendues dans son enfance sont celles qui nous reviennent le plus rapidement. Il y a une expression polonaise qui dit « on ne sait pas s'il se moque ou s'il demande la route ». Et avec Gombrowicz, c'était toujours un peu ça. On ne savait pas très bien dans ses réponses s'il se moquait de la personne qui posait, enfin s'il se moquait de lui-même d'abord, de la personne qui posait la question. Et ça, j'aime vraiment beaucoup ça.
Et en effet, ici, on ne sait jamais si vous vous moquez de cette famille française, voire de la famille polonaise, dont on fait connaissance lors du mariage entre Samuel et Monica. Eux aussi, ils sont... Alors, pardonnez-moi la trivialité de l'expression, mais ils sont gratinés.
Ah ben, ils sont gratinés. Mais après, je me moque de personne, ou bien aussi de moi-même. C'est-à-dire que, oui, je pense qu'après, mieux vaut en rire de tout ça. Parce que sinon, on fait quoi ?
On pleure. Et c'est pas du tout ce dont on a envie. Encore une question, Kinga Wierzykowska. Il se trouve que vous travaillez également dans le monde de l'édition. Est-ce qu'aujourd'hui, être d'une certaine façon de l'autre côté, et qui plus est en pleine lumière avec cette rentrée littéraire qui regarde toujours de très près les premiers romans, donc comme le vôtre, est-ce que c'est une source de grande joie ou de grande angoisse ?
Est-ce qu'à la lecture de mon roman, vous diriez que je suis dans la joie ou dans l'angoisse ?
Je ne sais pas, un peu des deux peut-être ?
Un peu des deux ou beaucoup des deux. C'est-à-dire que oui, je suis quelqu'un d'inquiet globalement, donc oui, je pense que ça nourrit à la fois, il y a des moments effectivement de joie, c'est une joie de voir ce livre-là, d'être ici pour en discuter avec vous. Je veux dire, c'est incroyable de pouvoir parler avec des gens qui l'ont lu, et puis après je suis horriblement angoissée.
En tout cas, c'est vrai que c'est déjà une chance d'être publié. Et peut-être un conseil à donner aux jeunes écrivains en herbe, persévérer.
Travailler, discipline. Moi, je suis quelqu'un qui travaille, c'est vrai, beaucoup le texte. J'ai l'écriture pénible, je ne fais pas du tout partie de ces gens qui écrivent dans la joie et avec facilité. Chaque phrase est un peu pénible, il ne faut pas avoir peur de cette douleur-là. Je pense même que pour moi, elle est un peu nécessaire, cette pénibilité quand même de l'écriture. Et puis oui, il faut persévérer et il faut retravailler, il faut se discipliner pour écrire, il faut être un peu discipliné.
Merci beaucoup pour ces conseils. En attendant, je rappelle évidemment le titre de votre roman, Kinga Wierzykowska. Il s'intitule « Pâte blanche » et il a paru aux éditions du Seuil. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Catherine.
« Le podcast de Littérature sans frontières à réécouter sans limite sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.